RFI, 8h30 à Paris, 7h30 en temps universel.
Le journal Nemo en Peace.
Et nous sommes à Goma dès le début de ce journal. Les combats se sont poursuivis ce vendredi entre armée congolaise et ses alliés opposés au groupe armé M23 soutenu par le Rwanda. Affrontement non loin de la capitale du Nord Kivu, à Sake et Kibumba notamment. Vous entendrez des habitants qui ont décidé de rester, cela malgré les incertitudes liées à l'insécurité. Lundi, le Conseil de sécurité des Nations Unies se réunit en urgence pour évoquer la situation alors que les tentatives de médiation sont en point mort. Au grand regret de João Lourenço, le président angolais, vous l'entendrez dans un instant. Dans ce journal également, le MPS, Mouvement Patriotique du Salut, parti au pouvoir au Tchad, qui se réunit en congrès la semaine prochaine. C'est le chef de l'État, Mahamat Idriss Déby, en personne, qui est à l'origine de cette convocation, ce qui pose un problème à l'opposition. Et puis au Nigeria, un nouveau groupe armé sur la liste des organisations dites terroristes, la secte Lukawara, comme l'appelle la justice nigériane, alors que les autorités s'inquiètent de sa résurgence et de ses activités intensifiées, notamment dans le nord-ouest du pays. Suite des affrontements ce vendredi dans l'est de la République démocratique du Congo entre l'armée congolaise et ses alliés et le groupe armé M23 soutenu par le Rwanda, deux fronts sont ouverts non loin de Goma, l'un à Sake à une vingtaine de kilomètres à l'ouest, l'autre à Kibumba au nord de la capitale du Nord Kivu. Ces combats qui sont montés en intensité ces dernières semaines ont fait des centaines de milliers de déplacés, pas moins de 400 000 depuis le 1er janvier de cette année selon les Nations Unies. Certains font le choix de rester à Goma où les détonations se font également entendre. Héritier Baraka leur a tendu son micro.
Les activités sont ralenties à cause de la guerre. Certains n'ont pas ouvert leurs boutiques parce qu'ils ont eu peur, mais d'autres magasins fonctionnent normalement. Mais c'est vrai qu'il y a des déplacements de population.
Nous avons peur, mais nous ne pouvons rien faire, alors nous attendons la volonté de Dieu. Nous avons peur parce que nous entendons des détonations d'armes lourdes. Il y a beaucoup de questions sur la situation. Est-ce qu'ils vont venir jusqu'ici ou pas ?
Comme tout le monde, je dis qu'il y a de la peur. Ces détonations d'armes lourdes, on les ressent dans nos corps. Alors nous prions pour que Dieu nous aide. Si les FARDC réussissent à les déloger, à chasser les rebelles afin qu'ils ne viennent pas en ville, ce serait une bonne nouvelle.
La peur est devenue comme une habitude chez nous. Nous connaissons ce sentiment. Mais que nous ayons peur de la guerre ou pas, c'est la même chose. Nous restons ici. Car dans les autres zones où nous pourrions nous réfugier, il y a des combats. Pour l'instant, on reste ici. On n'a pas d'autre endroit où aller.
Ces habitants de Goma au micro de notre correspondant héritier Baraka. De leur côté, la France, le Royaume-Uni et les États-Unis ont appelé leurs ressortissants à quitter la capitale provinciale. Ce lundi à New York doit se tenir une réunion d'urgence du Conseil de sécurité des Nations Unies. Une réunion demandée par Kinshasa, appuyée par la France. Et hier, lors d'une réunion du Conseil supérieur de la défense à Kinshasa, le président Félix Tshisekedi a donné des instructions pour renforcer les troupes en matériel et améliorer leurs conditions de travail. Il a également décidé de l'envoi imminent d'une mission de haut niveau dans la province du Nord Kivu. Les circonstances de la mort du gouverneur militaire de la province, Peter Chirimwami, ont également été évoquées. En coulisses, les négociations sont au point mort. Le processus de Luanda est notamment à l'arrêt après l'échec de la tripartite qui aurait dû se tenir à la mi-décembre dans la capitale angolaise en présence des homologues congolais Félix Tshisekedi, rwandais Paul Kagame et angolais donc João Lourenço, ce dernier qui s'est exprimé hier vendredi à l'occasion de la présentation de ses vœux au corps diplomatique présent dans la capitale. João Lourenço qui en a profité pour appeler une nouvelle fois à l'apaisement dans la région des Grands Lacs. On l'écoute.
L'exécutif angolais continuera de mettre à profit son expérience au service de la paix en Afrique. Il redoublera d'efforts pour trouver des solutions viables aux conflits qui ont empêché le développement de notre continent, comme celui qui oppose la République démocratique du Congo au Rwanda. L'objectif est de mettre fin de façon définitive à ce cycle récurrent d'instabilité et de violence qui sévit dans cette région.
Nous continuons d'espérer que malgré les derniers développements négatifs dans les environs de Goma, nous arriverons à dépasser les divergences qui persistent et que l'on tournera enfin la page des différends entre la RDC et le Rwanda, clôturant ainsi définitivement un chapitre de l'histoire convulsive de l'Afrique.
Le président angolais João Lourenço. Au Tchad, après sa large victoire aux élections législatives du 29 décembre dernier, le MPS sera réuni en congrès mercredi prochain, le 29 janvier. Un scrutin qui avait été boycotté par une partie de l'opposition et dont les résultats sont toujours contestés. Le MPS souhaite donc s'atteler à la refondation du Tchad. Problème, toujours selon l'opposition, ce congrès a été convoqué par le président d'honneur du parti, à savoir Mahamat Idriss Déby lui-même. Le chef de l'État. RFI N'Djamena, Victor Moria.
Où va-t-on ? C'est ainsi que se conclut un texte de l'ancien Premier ministre et président du RNDT, Le Réveil, Albert Pahimi Padaké, publié sur Facebook. Celui dont le parti est arrivé deuxième aux élections législatives dénonce une violation de la Constitution par le président de la République. Il cite l'article 77. Les fonctions de président de la République sont, je cite, « incompatibles avec toute activité au sein d'un parti ou regroupement de partis politiques ». En convoquant le congrès du MPS, dont il est président d'honneur, le président, explique M. Padaké, fait peser une grave menace pour le pluralisme politique et pour tous les Tchadiens qui ne sont pas militants du MPS. Une analyse partagée par Max Kemkoy qui accuse Mahamat Idriss Déby de confondre gestion de l'État et animation de parti. Selon le docteur Issadou Bragne, porte-parole du MPS, la régulation du MPS par le maréchal Mahamat Déby, président d'honneur du parti, est conforme au statut adopté lors du congrès extraordinaire et seuls les organes compétents comme le Conseil constitutionnel peuvent juger de la légalité des actes du chef de l'État. Toujours selon le porte-parole, le congrès a quant à lui pour objectif de redynamiser le parti afin de mettre les militants en ordre de bataille pour réaliser le programme politique sur lequel le président a été élu. Victor Morian Jamena, RFI.
Le Nigeria dans ce journal et le groupe armé Lakurawa considéré comme une nouvelle menace sécuritaire dans le nord-ouest du pays. Eh bien, ce groupe a été classé comme terroriste et totalement interdit par une cour de justice d'Abuja cette semaine. Lakurawa multiplie les incursions au Nigeria depuis 6 ans et est devenu encore plus agressif depuis quelques mois, le groupe étant désormais son territoire au-delà de la zone frontalière avec le Niger. Plus de détails avec Lisa Fabian.
La justice nigériane a officiellement déclaré que les activités de Lakurawa sont illégales n'importe où au Nigeria, mais particulièrement dans le nord-ouest et le centre-nord du pays. C'est le ministre de la Justice qui a déposé cette demande, alors que les autorités s'inquiètent depuis début novembre de la résurgence du groupe Lakurawa, pourtant présent depuis au moins 6 ans dans la zone frontalière entre le Niger et le Nigeria. D'abord chargé de protéger les communautés locales des attaques répétées des gangs armés, les membres de Lakurawa sont devenus plus agressifs dernièrement. Les chercheurs estiment qu'ils ont des liens avec les djihadistes et qu'ils entendent établir un califat dans la région. L'influence de Lakurawa s'étend désormais plus au sud de l'état de Sokoto, mais également dans la région voisine de Kebbi et jusque dans l'état de Zamfara, des zones désertées par l'état nigérian, mais aussi par les autres groupes armés. La justice nigériane a souligné que Lakurawa correspond aux critères établis par la loi sur la prévention du terrorisme. Cette définition permet des sanctions plus sévères pour les membres présumés du groupe, mais aussi pour leurs informateurs et toute personne leur fournissant une aide logistique.
Et sur ce sujet, vous retrouvez un dossier complet de Lisa Fabian sur notre site internet RFI.fr. RFI, l'actualité du continent. En bref, en Somalie, l'armée du Puntland, cette région semi-autonome du nord-est du pays, a annoncé avoir pris le contrôle de l'une des bases du groupe État islamique. Dans un communiqué, l'armée du Puntland fait état de la prise du village de Tourmasalé aux mains des djihadistes depuis quelque temps, l'une de leurs plus grandes bases, selon l'un des commandants, qui affirme également que le leader du groupe y vivait. Ces deux dernières années, ces opérations ont été menées sans aucun soutien du gouvernement fédéral somalien, précise le communiqué. La Somalie, où les terroristes Shebab sont bien plus présents que ceux du groupe État islamique. Et justement, les autorités somaliennes entendent bien lutter davantage contre ces activités. C'est dans ce contexte que Mogadiscio a conclu jeudi, avec le Caire, un accord de partenariat stratégique au niveau politique, économique, mais aussi militaire. Du neuf dans la guerre civile qui oppose au Soudan depuis le 15 avril 2023, l'armée aux paramilitaires des forces de soutien rapide ce vendredi soir Cette armée du général Abdel Fattah al-Burhan dit avoir brisé le siège de son quartier général à Khartoum, encerclé par les hommes du général Emmeti depuis le début du conflit. Une opération qui, selon l'armée, a réuni ses troupes positionnées à Bari, au nord de Khartoum, et celles stationnées à Omdurman, ville voisine de la capitale. C'est de l'autre côté du Nil, des troupes qui ont fusionné aux forces de l'armée postées dans leur quartier général dans la capitale soudanaise. Donc, et puis c'est une belle prise de la part d'Interpol, l'organisation internationale de police criminelle, qui s'est félicitée du retour en Tanzanie, leur pays d'origine, d'une centaine de tortues protégées, 116 en tout. 15 trafiquants sévissant dans plusieurs pays ont été arrêtés après plus de 2 ans d'investigation qui auront mené les enquêteurs de la Tanzanie à la Thaïlande en passant par l'Ukraine. Plus de détails avec Simon Rosé.
Comment l'arrestation d'une femme ukrainienne à l'aéroport de Bangkok a entraîné l'arrestation de 14 autres personnes en Égypte, en Indonésie, à Madagascar et en Tanzanie. Interpol se félicite du démantèlement d'un réseau de trafiquants d'animaux, des tortues en l'occurrence, menacées et pourtant retrouvées dans les valises de cette femme en juillet 2022, lors d'une opération de police à l'aéroport Suvarnabhumi de la capitale thaïlandaise. Des tortues crêpes, des tortues étoilées, des tortues géantes, toutes sont sur la liste de la CITES, la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvage menacées d'extinction. Suivent 2 ans d'enquête qui permettent d'identifier les membres de ce réseau et la restitution in fine des 116 animaux à la Tanzanie, leur pays d'origine. Certains n'ont cependant pas survécu. Ils ont tout de même été rendus aux pays d'Afrique de l'Est. Leurs corps serviront de preuve dans les procès à venir. Un coup de filet rare par son ampleur qui vient contrarier une activité de plus en plus lucrative. Le trafic d'espèces sauvages génère en effet 20 milliards de dollars par an dans le monde, une activité devenue majeure pour les groupes criminels organisée selon Interpol.
Simon Rosé du service environnement de Radio France Internationale. Tout de suite, vous retrouvez Julien Coquel-Rouhem pour la suite et la fin d'RFI Matin.